Et voici le journal d'Aurélie Kiefer. Bonjour Aurélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une nouvelle tentative diplomatique pour la Syrie. Deux réunions internationales sont prévues samedi à Lausanne et dimanche à Londres. Mais un cessez-le-feu paraît très improbable vu la détermination affichée par le président russe Vladimir Poutine. Dimanche, il dénonçait les écarts de conduite de Bill Clinton. Hier, Donald Trump s'est retrouvé à son tour accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Frédéric Carbone reviendra sur ce nouvel épisode de la campagne présidentielle américaine. Les sept candidats à la primaire de la droite et du centre s'apprêtent à débattre tous ensemble sur TF1 ce soir. Chacun devra tenter de gagner des points ou de ne pas trop en perdre dans le cas d'Alain Juppé, favori des sondages. Analyse de Stéphane Robert. Journée de grève et de manifestation des salariés de SFR. Ils protestent contre les suppressions d'emplois et les fermetures de boutiques. Nous ferons le point sur la situation du groupe avec Anne Lorchouin. Plus de 350 morts et un millier de blessés, c'est le bilan de trois semaines d'offensive aérienne contre l'est d'Alep. Les bombardements de l'armée russe font de nouvelles victimes civiles chaque jour. Un pilonnage massif destiné à aider le régime syrien à reprendre la totalité de la ville, mais dénoncé par la communauté internationale. La Nouvelle-Zélande vient de déposer un projet de résolution auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander un arrêt des attaques sur les civils. Le précédent texte d'inspiration française n'avait pas pu aboutir, la Russie lui ayant opposé son veto. Le ton est monté ces derniers jours entre Paris et Moscou et Vladimir Poutine a annulé sa visite à Paris prévue la semaine prochaine. Pour autant, imposer des sanctions supplémentaires à la Russie, comme l'a suggéré Washington, ne serait pas une solution, estime le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault.
Pour l'heure, notre priorité n'est pas de rentrer dans un cycle de sanctions pour des sanctions. Notre priorité et notre détermination, c'est de convaincre, encore une fois, pour l'arrêt des bombardements à Alep et permettre l'accès le plus rapidement possible de l'aide humanitaire et reprendre le processus politique. C'est une situation intolérable et les responsabilités sont claires. C'est le régime de Bachar el-Assad soutenu par ses alliés, la Russie et l'Iran. Donc nous appelons encore et avec force et conviction à l'arrêt des bombardements. C'est la priorité, c'est le préalable à tout le reste. Et nous ne nous lasserons pas de le faire et de nous battre pour convaincre, et en particulier la Russie, qu'il n'y a pas d'autre voie.
Jean-Marc Ayrault au micro de Mathilde Imberti. Pas d'autre voie que l'arrêt des bombardements, dit le chef de la diplomatie française. Pas d'autre choix que de se battre, répond Vladimir Poutine, qui rejette les accusations de complicité de crimes de guerre à Alep. Vous avez écouté les déclarations du président russe sur TF1 hier soir, Hervé Toutain.
C'est de la rhétorique politique qui n'a pas beaucoup de sens et ne tient pas compte des réalités en Syrie, affirme Vladimir Poutine qui poursuit. Les Occidentaux sont les premiers responsables. Ils se sont félicités des printemps arabes. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Notre objectif est d'empêcher que ne se reproduise en Syrie ce qui s'est passé en Irak et en Libye. Quant à la ville d'Alep, elle est sous le contrôle d'Al-Qaïda, classée par l'ONU comme organisation terroriste. Il n'y a pas d'autre choix que de se battre, martèle Vladimir Poutine.
Nous ne pouvons pas permettre aux terroristes d'utiliser des civils et de s'en servir comme des boucliers humains. Et nous ne pouvons pas leur permettre de faire du chantage au monde entier en capturant des otages, en tuant des prisonniers, en les égorgeant et ainsi de suite. Si nous voulons arriver au bout de la lutte contre le terrorisme, il faut combattre les terroristes et non pas se laisser faire, plier ou battre en retraite.
Un nouveau round de négociations sur la Syrie est prévu à Genève entre Américains et Russes samedi prochain.
En Irak, la grande offensive de Mossoul se prépare. L'armée irakienne et ses alliés veulent reprendre la deuxième ville du pays, tombée aux mains de l'organisation État islamique en juin 2014. Mais les djihadistes ne comptent pas se laisser faire et ils s'organisent pour défendre au mieux la capitale du califat autoproclamé d'Aboukbar al-Baghdadi. Christian Chéneau.
Dans Mossoul, les djihadistes s'activent pour préparer la mer de toutes les batailles. Ils creusent des tunnels, truffent les maisons d'explosifs et préparent des voitures piégées à la chaîne. C'est l'heure de la mobilisation générale, assure depuis Bagdad Hicham El-Hachemi, un expert du groupe État islamique.
Daesh a divisé Mossoul en trois zones. À l'intérieur de la ville, il y a des francs-tireurs, des unités tactiques, de l'artillerie et des mortiers. Et sur la première ligne de défense, des kamikazes sont positionnés à côté des tranchées, prêts pour la bataille de Mossoul qui va mobiliser 4000 combattants.
Tous ces préparatifs guerriers montrent que les djihadistes sont déterminés à infliger aux assaillants un maximum de pertes, poursuit Hicham El-Hachemi.
Il y a des nouveautés aussi dans la stratégie de Daesh. L'organisation dispose de plus de 200 drones. qu'elle peut utiliser comme kamikaze contre des forces étrangères. Et puis sur le flanc oriental et au sud-est de Mossoul, des tranchées d'une largeur de 2 mètres sur 60 km ont été remplies de pétrole brut.
Il suffira alors aux djihadistes d'enflammer ce pétrole pour provoquer une immense fumée noire qui rendra plus difficiles les frappes aériennes contre leur position.
Tel est pris qu'ils croyaient prendre lors du débat télévisé de dimanche opposant les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Donald Trump avait cru bon d'attaquer Bill Clinton sur son comportement envers les femmes, s'appuyant même sur des témoignages pour l'accuser d'agression sexuelle. Eh bien, le milliardaire est à son tour accusé du même délit. Une vidéo avait déjà montré sa capacité à formuler des propos grossiers et sexistes. Le candidat républicain s'était alors excusé en affirmant que ce n'était que des mots, pas des actes. Les témoignages que révèle le New York Times le contredisent. Les explications de Frédéric Carbone à Washington.
Jessica Leeds a 74 ans et des cheveux blancs et elle n'a jamais oublié sa seule rencontre avec Donald Trump en 1980. C'était dans un avion, elle voyageait pour son travail et elle s'est trouvée à côté de lui parce qu'on lui a proposé une place libre en première classe. Elle raconte qu'ils ont parlé, plaisanté, mangé et puis au bout de trois quarts d'heure, il n'y avait plus d'accoudoir entre leurs sièges.
Ce fut un vrai choc quand tout d'un coup ses mains se baladaient sur tout mon corps. C'était comme une pieuvre, comme s'il avait six bras. Quand il a commencé à mettre sa main sur ma jupe, c'en était trop, fallait que ça cesse.
Jessica Leeds ne se souvient pas d'avoir dit un mot, elle est retournée à sa place de seconde et elle explique qu'à l'époque, une forme de pression sociale faisait qu'une femme pouvait se sentir responsable du comportement des hommes. Ce n'est que l'an dernier, quand Donald Trump s'est présenté, qu'elle en a parlé à quelques amis, puis elle a contacté le New York Times après le débat et les dénégations du candidat. Partager son histoire, explique-t-elle, fera peut-être changer les choses et ouvrira les yeux sur ce genre d'agression sexuelle. Je veux croire que j'aurais eu ma part dans cette évolution, conclut cette dame à la retraite. C'est exactement ce que sont venus dire des manifestantes à New York devant la tour Trump. Elles n'ont pas été agressées par le candidat, mais c'est là qu'elles ont choisi de se rassembler.
Donald Trump dément ces révélations. Pure fiction, ajoute son entourage. Six hommes et une femme face à face ce soir. TF1 organise le premier grand débat de la primaire de la droite et du centre à un peu plus d'un mois du premier tour de scrutin. Ils sont donc sept candidats, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Depuis des mois, toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a deux grands favoris, Juppé et Sarkozy. Alors est-ce que ce débat est susceptible de faire évoluer les choses, Stéphane Romer?
La confrontation annoncée depuis des mois aurait-elle bien lieu? Un autre candidat peut-il émerger et venir perturber le duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? C'est assez difficile à dire puisque le phénomène des primaires est assez nouveau en France. Le seul point de comparaison dont on dispose est la primaire socialiste organisée en 2011. Et si l'on en croit ce qui s'était passé à l'époque, les enquêtes d'opinion avaient très tôt détecté que ça se jouerait entre François Hollande et Martine Aubry. Le résultat du premier tour de scrutin ne les avait pas démentis. Les sondeurs avaient aussi perçu le décrochage dans l'opinion de Ségolène Royal, ce qui s'était traduit par un tout petit 7% dans les urnes. En revanche, ils n'avaient pas vu venir le phénomène Montebourg, Arnaud Montebourg, qui en quelques semaines et grâce en partie au débat télévisé avait su séduire 17% des électeurs de cette primaire. Alors faut-il s'attendre à quelque chose de comparable? Deux favoris qui se disputent la victoire finale et un ou deux candidats qui se révèlent comme Bruno Le Maire ou Nathalie Kosciusko-Morizet. Un peu plus d'un mois du premier tour de scrutin, il apparaît peu probable de voir s'opérer un bouleversement significatif de l'ordre établi, mais on perçoit quand même quelques évolutions, notamment Nicolas Sarkozy qui commence à décrocher par rapport à Alain Juppé. Si ça devait se confirmer dans des proportions plus importantes, ça pourrait rebattre les cartes et faire émerger un ou d'autres candidats en vue du second tour. On n'en est pas encore là. Ce premier débat télévisé permettra d'abord de savoir dans quelle mesure cette primaire à droite, la première du genre, suscite ou non l'intérêt des Français.
Stéphane Robert, la grogne des salariés de SFR. Cet été, l'opérateur mobile annonçait un plan de départ volontaire de près d'un tiers de ses effectifs à l'horizon 2017. Ces derniers jours, une autre nouvelle a fait bondir les syndicats, l'annonce de l'externalisation du service client de SFR vers un opérateur de centre d'appel marocain, racheté par Altice, la maison mère de SFR. Un débrayage massif des employés de SFR a été organisé avant-hier, à l'appel de la CFDT. Aujourd'hui, c'est la CGT du groupe qui appelle à la grève, le tout dans un contexte d'hyper-concurrence entre les quatre opérateurs français, Anne Lorchouin.
Le secteur des télécoms en France a supprimé 10% de ses emplois depuis 2010. Arrivée d'un quatrième opérateur, développement des smartphones et des applications gratuites, marge et rentabilité revues à la baisse pour les opérateurs historiques, SFR, racheté, on le rappelle, par Altice et Patrick Drahi, n'y a pas échappé. En témoigne l'annonce l'été dernier d'un plan de départ volontaire de 5000 personnes. Mais ce que le groupe n'avait pas dit aux syndicats, c'est la volonté d'externalisation de son service client, soit 1400 personnes qui se verraient transférées de SFR vers Intelsia, un opérateur de centre d'appel marocain, racheté par Altis. Pas de changement de maison mère, donc, mais un changement de conditions de travail et de garantie d'emploi. C'est en tout cas ce que craignent les syndicats, qui, depuis le rachat de SFR par Altis, déplorent de façon générale la gestion court-termiste de la stratégie du groupe. Sabine Quiévreux est déléguée syndicale centrale CFDT chez SFR et travaille justement au service client.
On s'est retrouvé avec un repreneur qui a voulu changer tout. Très rapidement. On est purement dans le lean management, c'est-à-dire qu'on réduit au maximum les étapes. Alors que SFR avait l'habitude pendant longtemps de construire des projets de bout en bout, mais avec des étapes de validation pour être sûr que ce qui était mis sur le marché était viable. Aujourd'hui, on nous demande l'inverse, on nous dit pensez au maximum ce qui pourrait être bien dans cet outil, mais vous le déployez et on réajustera le tir si c'est pas bon. Donc il y a aussi un impact pour le client, puisqu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des offres, avec des augmentations tarifaires. Et quand le client, s'il y a trop de clients qui se plaignent, etc., on reviendra en arrière.
Un client qui devrait aussi perdre au change avec cette externalisation puisqu'il sera de plus en plus incité à régler lui-même ses aléas de téléphonie via des forums ou des chats à distance.
L'avantage fiscal du diesel va être étendu à l'essence pour les entreprises, c'est ce qu'annonce ce matin Ségolène Royal. Les entreprises pourront déduire 80% de la TVA appliquée sur l'essence, comme c'est le cas actuellement pour le gazole, explique la ministre de l'écologie, une mesure qui se fera de façon progressive en 2 ans. À l'approche du démantèlement annoncé de la jungle de Calais, 11 associations attaquent l'État, en l'occurrence la préfecture du Pas-de-Calais, pour empêcher cette évacuation. Elles ont saisi hier le tribunal administratif de Lille en référé pour atteinte aux droits fondamentaux des exilés. L'avocate Julie Bonnier, qui représente ces associations venant en aide aux migrants dans le Calaisis, explique le sens de cette démarche.
Aujourd'hui, les solutions qui sont proposées par le gouvernement ne sont pas des solutions pérennes et durables. Donc on sait aujourd'hui que évacuer le bidonville va simplement aggraver leurs conditions de vie et non pas préserver leurs droits.
On leur propose quand même de quitter le bidonville pour aller en centre d'accueil et d'orientation.
Alors d'abord, sous réserve que la proposition soit réelle et sous réserve que les exilés acceptent de partir, on sait, puisque ça fait 1 an qu'on leur propose de partir en CAO, aux exilés. Hein. Ça fait 1 an qu'on propose et ça fait 1 an qu'on constate les défaillances de ce système de CAO, l'inadaptation, le manque de moyens. On constate également qu'il y a un certain nombre d'exilés à qui ce projet de partir dans le Var ou de partir en Bretagne n'est pas compatible avec leur volonté d'être près de la frontière franco-britannique pour passer en Angleterre.
Julie Bonnier répondait à Géraldine Allot. Le juge rendra sa décision sous 48 heures. 3 mois de prison ferme requis contre un tagueur. Il s'agit de Thomas Vuille, plus connu sous le nom de Monsieur Chat. Ses dessins, très souvent un chat jaune souriant, recouvrant les murs de plusieurs villes de Paris à New York en passant par Hong Kong ou Dakar. Il est jugé pour dégradation d'un bien appartenant à autrui. Il avait tagué un panneau en plâtre blanc de la SNCF, Louise Rollet.
Un chat, un oiseau, 4 roses, c'est le dessin incriminé, un dessin que l'on ne voit plus aujourd'hui, Gare du Nord, signé Thomas Vuille, un artiste de rue connu. Ces chats jaunes, toujours hilares, les yeux en amande, recouvrent déjà plusieurs murs de la capitale. C'est en 2015 qu'il aperçoit cet espace vierge dans la gare parisienne. Il décide de le décorer à sa manière, au feutre noir. Son matou, explique-t-il, est un symbole destiné à apaiser les passants. C'était mon sourire du matin en débarquant du RERD, témoigne une internaute sur le compte Instagram de Monsieur Chat. Si le parquet a requis 3 mois de prison ferme, c'est parce que le graffeur est en état de récidive légale, indique son avocate. Début 2016, il avait écopé d'une amende de 300 euros pour des petits dessins sur des publicités du métro. En 2014 déjà, la RATP l'avait poursuivi en justice pour ses peintures à la station Châtelet. Elle réclamait 1800 euros de dommages et intérêts, mais l'affaire avait fini par être abandonnée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le chat, l'oiseau et les roses ont disparu du paysage Gare du Nord, ce qui pose la question du chef d'inculpation dégradation pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, un délit qui suppose une détérioration permanente.
Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision à 9h. Le temps sera gris et pluvieux aujourd'hui. Météo France a placé 3 départements en vigilance orange. Les Bouches-du-Rhône pour vent violent, l'Hérault pour risque d'inondation et l'Aude pour des phénomènes de crue. Les températures ne dépasseront pas 8 degrés à Nantes, 10 à Paris et Strasbourg, 12 à Clermont-Ferrand, 23 à Ajaccio.